Place au débrief éco, comme tous les dimanches soirs sur France Info, en partenariat avec le Cercle des économistes. 20 minutes de débat, d'éclairage sur les grands thèmes économiques et sociaux qui vont notamment marquer la campagne pour la présidentielle 2017. Deux économistes en studio, invités face à face. On va leur donner la parole dans quelques secondes. Bonsoir Emmanuel Cuny.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
On commence avec l'Europe. L'Europe qui semble être la grande absente de cette campagne présidentielle. L'Europe, il en a été question en ce début de semaine au cours d'un mini-sommet européen à Versailles.
Oui, dans une déclaration commune lors d'un sommet quadripartite, François Hollande, Angela Merkel, les premiers ministres italiens Paolo Gentiloni et espagnol Mariano Rajoy se sont inquiétés du sentiment de défiance qui nourrit le populisme en Europe. Tous ont plaidé pour de nouvelles formes de coopération capables de montrer, on va dire, la solidarité à 27 et puis la capacité d'avancer à des rythmes différents. Alors question, l'idée du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, d'une Europe à plusieurs vitesses est-elle applicable? Et puis surtout, vraiment question d'actualité, l'euro doit-il en rester le fer de lance?
Eh bien, on va en demander leur avis à nos invités. Agnès Benassi-Kéré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Cercle des économistes, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique. Deuxième invité, Gilles Finkelstein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général du think tank Fondation Jean Jaurès. Alors, pour lancer ce premier débat, eh bien, je vous propose d'écouter Gaëtane Ricard-Nioul. Elle est porte-parole de la représentation de l'Europe en France. Elle revient sur cette idée d'Europe à plusieurs vitesses développée par Jean-Claude Juncker.
Je pense que c'est pas incohérent de dire qu'on veut l'unité à 27, mais qu'on n'est pas complètement fermé à l'idée que certains groupes, à certains moments, avancent plus vite. C'est déjà le cas pour la monnaie commune avec l'euro, par exemple.
Alors, question Agnès Benassi-Kéré, que cache exactement ce concept d'Europe à plusieurs vitesses?
Je pense que c'est un constat un peu de réalisme, c'est-à-dire que le livre blanc de la Commission européenne qui a été publié début mars proposait en fait assez astucieusement un menu très politique. Grosso modo, le statu quo, ou bien on en fait plus, ou bien on en fait moins, notamment par exemple on supprime certaines politiques comme l'aide au développement, ou alors on se concentre sur le marché unique et rien que ça, le rêve britannique, ou bien on fait à plusieurs vitesses, ceux qui veulent en font plus, par exemple sur l'harmonisation fiscale ou sur la défense. Ça n'est pas nécessairement les frontières d'une initiative existante qui pourrait être la zone euro. Ça peut être autre chose, comme par exemple sur la défense. On pense à l'espace de Schengen, mais pas que. Et donc, l'idée, c'est surtout, en fait, en creux, de ne pas permettre à un État de bloquer l'ensemble.
Mais ce n'est pas l'explosion, littéralement, de l'Europe, ça, Agnès Benassi?
Pour être précis, en 1997, lors du traité d'Amsterdam, a été introduit le concept de coopération renforcée. Ce concept, donc, ça permet à au moins 9 pays d'aller de l'avant s'ils ont envie d'aller plus loin sans remettre en cause les acquis communautaires. Je crois que l'idée sous-jacente, c'est d'utiliser cet outil de manière à avoir un groupe de têtes, vous voyez, comme comme au vélo.
Un aiguillon, en quelque sorte.
Un peloton de tête qui tire un peu le reste. Et puis, le groupe reste ouvert. Si ça marche, et bien les autres auront envie de venir.
Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Finkelstein, pour la Fondation Jean Jaurès, cette Europe à plusieurs vitesses? Est-ce que ça a un sens, finalement?
C'est une vieille idée. Agnès Benassi-Kéré l'a dit. Dès après la chute du mur de Berlin, François Mitterrand avait proposé l'idée d'une confédération autour de la Fédération européenne. Quelques années après, les deux ministres allemands, Schäuble et Lammers, avaient proposé un noyau dur. À chaque fois, c'est la même idée. Ça existe, c'est une vieille pratique. On a parlé de l'euro, on a parlé de Schengen, mais qui souffre d'une immense difficulté, c'est que les pays qui veulent aller plus loin ne peuvent le faire qu'à condition que l'ensemble des pays soient d'accord.
C'est une facilité, mais sur le toit d'une usine à gaz, finalement.
Oui,
donc
puis,
on n'avance pas vraiment dans cette
non,
histoire.
Non, mais pourquoi ça peut changer aujourd'hui? Sans doute pour la raison suivante, les deux raisons suivantes. D'abord, il y a une expérience concrète des dysfonctionnements de l'Union européenne par les chefs d'État et de gouvernement, et notamment par les chefs d'État des grands pays. Le sentiment d'une lourdeur considérable dans une Europe à 27 ou à 28.
Mais ce n'est pas nouveau.
L'Europe à 27 ou 28, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et en tout cas, il l'éprouve. Des divergences beaucoup plus violentes, notamment qui ont émergé lors de la crise des migrants. Et puis, ce qui est encore plus nouveau, c'est le sentiment de l'urgence d'un sursaut. Il y a eu la victoire de Trump, il y a eu le Brexit et la montée des populismes. Si vous mettez tout ça ensemble, ça crée un climat qui est un peu nouveau et qui peut espérer que cette fois-ci, on va avancer.
Alors que tout le monde vous entende, Agnès Benassi, quid de plus d'intégration, par exemple? Et puis, il y a aussi l'Union européenne, c'est quoi? L'Union budgétaire, l'Union monétaire? Comment on avance sur ces différents terrains?
Sur le sujet de l'Union monétaire, en fait, on a beaucoup avancé depuis le début de la crise. Ça ne se voit pas forcément. Certains défauts ont commencé à être corrigés. Le premier défaut, c'était penser qu'on faisait une union monétaire, alors qu'en fait, on n'a pas fait l'union bancaire. Les banques sont responsables de 90% des émissions monétaires dans la zone euro.
On a mis la charrue avant les bœufs, en quelque sorte.
On fait l'union monétaire, on dit qu'on fait l'union monétaire, mais en fait, on fait l'union monétaire de 10% de la monnaie qui circule. Donc là, c'est en train d'être corrigé, on fait l'union bancaire. Ça prend du temps, il y a évidemment des problèmes le long de la route, mais je pense qu'on va y arriver. Le deuxième problème qui est en train d'être traité, c'est une sorte d'incohérence des traités. Le traité disait, eh bien, si un pays est en difficulté, la Banque Centrale Européenne en aucun cas ne peut venir à son secours, les autres États en aucun cas ne peuvent venir à son secours, et en aucun cas ce pays ne peut faire défaut, c'est-à-dire ou restructurer sa
dette. Donc ça peut changer.
Voilà. Et ça, c'est en train de changer, ça a changé de facto. Il y a un troisième défaut qui, lui, a du mal à être corrigé, c'est l'absence de coordination des politiques économiques. D'une certaine manière, c'est un problème qu'on connaît déjà. Les politiques monétaires étaient coordonnées dans le système monétaire européen qu'on avait avant l'euro. Ça n'a pas marché et on a fait l'intégration monétaire. Et aujourd'hui, on est en train de revivre d'une certaine manière le même film, mais du côté budgétaire. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire le pas d'intégrer, non pas la totalité du budget, mais d'avoir un étage fédéral qui permet de faire cette coordination qu'on n'arrive pas à faire sinon.
Rapidement, Gilles Ficachat, est-ce qu'on peut convaincre les citoyens français, enfin de tous les pays européens, avec ce projet-là que vous nous décrivez aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réellement séduire le peuple européen avec tout ça?
Si on considère qu'une des faiblesses de l'Europe aujourd'hui est l'inefficacité de ses processus décisionnels, soit c'est le statu quo et on voit beaucoup de la montée des populismes qui participent de ce sentiment-là, soit on va de l'avant. Alors il y aura des oppositions. On les voit déjà, les petits pays qui craignent de perdre leur place, davantage encore les pays d'Europe centrale et orientale. On voit les Polonais qui sont les premiers à redouter d'être relégués en deuxième division, en même temps qu'ils sont les premiers à empêcher la moindre avancée. Donc il y aura des oppositions, il y a des difficultés. C'est vrai que l'unité de l'Europe peut être en cause et surtout que la lisibilité de l'Europe, qui n'est déjà pas très grande, serait sans doute moins forte encore avec une Europe différenciée, mais il faut y aller. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a les questions dont on parle beaucoup, dont parlent le plus les chefs d'État et de gouvernement, qui sont les questions de défense. Et puis, il y a les questions qu'a évoquées Agnès, celles de l'Europe, de l'euro notamment.
Voilà, sujet passionnant. L'Europe, on se demande d'ailleurs pourquoi c'est la grande absente de cette élection présidentielle. On vous retrouve, messieurs, dames, Agnès Benassi-Kéré et Gilles Finkelstein, dans quelques secondes pour la deuxième partie du débrief éco.
France Musique et la Fugue présentent un week-end lyrique à Venise du 16 au 18 septembre. À la Fenice, assistez à l'occasion Fais le larron de Rossini et Madame Butterfly de Puccini, avec en introduction les conférences de Frédéric Lodéon. Et partez à la découverte du patrimoine vénitien en visite privée. Plus d'informations au 01 43 59 20 33 et sur francemusique.fr. France Musique, une radio de Radio France.
France Info.
17h, 20h. Rémi Inc.
Dans un instant, la deuxième partie du débrief éco avec Emmanuel Cuny et nos deux invités. On va parler des PME notamment. Mais d'abord l'info, 19h20, Diane Ferschit.
Le directeur de la communication du Parti Les Républicains convoquait un entretien disciplinaire en interne après la publication sur les réseaux sociaux d'une caricature d'Emmanuel Macron. Publiée vendredi sur le compte Twitter du parti, elle reprenait les codes de l'antisémitisme pour critiquer l'ancien banquier. Une caricature qualifiée d'inacceptable hier soir par François Fillon. La France appelle à l'apaisement entre les Pays-Bas et la Turquie, les deux pays en pleine crise diplomatique. Hier, le ministre des Affaires étrangères turc ainsi que la ministre de la Famille ont été interdites de visite sur le territoire néerlandais. Le président turc exige à présent des excuses. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères a finalement tenu un meeting à Metz aujourd'hui devant plus de 800 personnes. Il défend le oui au référendum en Turquie, votation qui prévoit un renforcement des pouvoirs du président. Il réclame la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire du pays. 850 manifestants venus d'Allemagne, de Suisse et de France se sont mobilisés aujourd'hui près de Fessenheim en Alsace. Rassemblement pour commémorer également le 6e anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Ils exigent une vraie transition énergétique. Une branche dissidente d'Al-Qaïda revendique le double attentat d'hier à Damas en Syrie. Une attaque kamikaze qui a fait 74 morts dans la vieille ville. La France a condamné aujourd'hui cet attentat. Elle appelle les garants de la trêve en Syrie à exercer une pression sur les différentes parties pour que le cessez-le-feu soit pleinement respecté. Le top 14 de rugby, 20e journée. Clermont s'incline à domicile contre Montpellier, 19 à 28. Pau, de son côté, l'emporte face à Castres, 18 à 12. Au classement, ce soir, La Rochelle est en tête du top 14.
France Info. La suite du débrief éco, la deuxième partie, Emmanuel Cuny est toujours avec nous. Nos deux invités également, Agnès Benassi-Kéré, membre du Cercle des économistes, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, Gilles Finkelstein, directeur général du think tank Fondation Jean Jaurès. Après l'Europe qu'on a évoquée tout à l'heure, l'élection présidentielle en France et la place des entreprises dans la campagne, Emmanuel.
Oui, les candidats à l'élection présidentielle sont allés expliquer leur ambition pour les petites entreprises devant les responsables de la CPME. C'est la nouvelle CGPME. Alors, opération calinothérapie ou véritable ambition pour ces sociétés qui sont les principales créatrices d'emplois aujourd'hui en France. La question se pose de savoir comment aider les PME à se développer, trouver des investisseurs, peser encore plus dans la balance commerciale de la France, hein, qui a affiché l'an dernier un déficit record. Et puis surtout, quelle fiscalité? Nous allons voir tout cela avec nos invités.
Et pour lancer ce débat, on va écouter un candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, candidat En Marche, qui évoque sa réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en faveur des PME.
Aujourd'hui, dans l'ISF, vous avez les parts d'entreprise, les détentions de capitaux. Tous ces éléments-là seront sortis de l'assiette de l'ISF. Ne reste dans l'assiette de l'ISF que les détentions immobilières, ce qui fait qu'on ne taxera plus par l'ISF le financement de l'économie. On ne taxera plus par l'ISF un entrepreneur qui vend son entreprise et décide de réinvestir dans notre économie.
Gilles Finkelstein, pour un candidat qui a envie de montrer son intérêt, sa volonté de dynamiser le tissu économique du pays, est-ce que les PME sont une bonne cible aujourd'hui pour lui?
D'abord, c'est une excellente cible d'un point de vue politique. Les PME ont une excellente image. 81% des Français ont une bonne image des PME, 43% seulement une bonne image des grandes entreprises. C'est une bonne cible aussi parce qu'il y a beaucoup de salariés qui travaillent dans les PME, quasiment la moitié des salariés du secteur privé. D'un point de vue économique, c'est sans doute une bonne cible aussi parce que c'est un enjeu pour la création d'emplois. C'est d'abord là que se fait la création d'emplois. C'est un enjeu pour l'aménagement du territoire. Mais il n'y a pas seulement les PME. On a peu parlé des entreprises de taille intermédiaire qui sont, hein, entre les grandes entreprises et les PME, un des enjeux déterminants pour la compétitivité et pour notre commerce extérieur. Toutes les PME ne sont pas dans la même situation.
Même question, Agnès. Est-ce que les PME sont une bonne cible? Est-ce qu'on ne cible pas finalement peut-être un peu trop sur les seules PME aujourd'hui?
Moi, je pense que ce n'est pas une cible du tout. Parce que plus de 99% des entreprises sont des PME. Donc, si vous dites que vous ciblez sur des PME, ça ne veut pas dire grand-chose.
Le spectre est un peu large.
Voilà, c'est un peu large. Maintenant, tout dépend de l'objectif. Hein. Si, contrairement à une idée reçue, les PME ne créent pas spécialement des emplois.
Ah bon?
Non. C'est une grosse partie de l'emploi, mais pas de la croissance de l'emploi.
D'accord.
Ce sont les jeunes entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la productivité, qui élèvent le niveau de vie.
Donc c'est elles qu'il faut cibler en priorité.
Donc ce serait plutôt les jeunes entreprises. Et l'avantage de cibler les jeunes entreprises, c'est qu'on est, n'est-ce pas, on n'est pas jeune toute sa vie. Et donc c'est forcément un chèque qui ne sera pas fait éternellement à la même entreprise, ce qui est aussi intéressant du point de vue de la gouvernance des finances publiques. C'est vrai que les PME sont réparties dans tout le territoire. Tout le monde connaît des chefs de PME et on ne connaît pas forcément un patron de CAC 40. Donc c'est assez normal hein, que les PME soient proches de notre cœur. Néanmoins, avec les meilleures intentions du monde, on peut créer finalement des obstacles à la croissance des PME. Gilles Finkelstein a parlé des ETI. Une fausse bonne idée, par exemple, c'est créer un impôt. On sait que les toutes petites entreprises ont un impôt sur les sociétés plus bas. Et une fausse bonne idée qui revient régulièrement dans le débat, c'est faire un impôt sur les sociétés pour les PME un peu plus grandes que les toutes petites.
Différencier voilà, l'impôt. En
plus
fait.
Bas. Mais en fait, ça, c'est, bon, ça veut dire que déjà, c'est des entreprises qui gagnent de l'argent. Hein, donc, ce n'est pas des entreprises jeunes, innovantes, qui en général ne gagnent pas d'argent, puisque vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés si vous n'avez pas de bénéfices. Et puis, par ailleurs, c'est une incitation aux PME de ne pas grandir, justement, ou de se couper en morceaux. Et donc, c'est l'inverse de ce qu'on voudrait. On voudrait que les petites grandissent. En fait, le système français est plombé un peu par toutes ces barrières à la croissance des PME.
Gilles Finkelstein, Fondation Jean Jaurès, on est d'accord avec ce que dit Agnès Benassi du Cercle des économistes?
Dans les PME, il y a un sujet qui concerne la fiscalité, et puis il y a tout le reste dont on parle souvent trop peu. Sur la fiscalité, il y a la question d'abord de l'environnement à la fois de la simplicité, de la lisibilité, de la stabilité de la fiscalité qui, pour beaucoup de PME, est un enjeu absolument déterminant. Et puis, il y a le sujet du niveau de la fiscalité, mais là aussi, il faut essayer d'être plus précis. Agnès a évoqué à raison la fiscalité qui pèse sur les bénéfices, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, encore faut-il faire des bénéfices. Et c'est frappant de constater que dans cette campagne, peut-être le seul sujet sur lequel il y a une convergence entre tous les candidats, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. Mais il n'y a pas que l'impôt sur les bénéfices, il y a toute la fiscalité qui pèse sur le travail, la fiscalité du capital.
Alors l'ISF, les propositions de Macron par exemple sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Il veut sortir finalement de l'ISF les parts d'entreprise, la détention de capital, il veut uniquement taxer les détentions immobilières. Est-ce que c'est une solution ça, Agnès Benassi-Carré?
Je crois qu'il est en ligne de mire particulièrement le financement de l'innovation en France et l'incitation pour des personnes qui ont réussi à créer des entreprises et qui ensuite elles revendent, et bien de garder les capitaux en France et de réinvestir dans de jeunes pousses, de manière à avoir un écosystème. Et ça, c'est sûr que l'ISF est un énorme handicap par rapport à la création d'un écosystème de l'innovation.
Ça, même la gauche le reconnaît aujourd'hui, finalement.
Je crois que tout le monde
le reconnaît.
Alors maintenant, au-delà de ça, on voit qu'en France, bon, c'est un secret pour personne que la fiscalité est élevée, qu'elle est élevée en particulier pour les revenus du capital. Mais à l'intérieur des revenus du capital, eh bien, il y a une grande inégalité selon le type d'investissement. Et malheureusement, les investissements les plus taxés sont les investissements productifs. Et les moins taxés sont l'immobilier, l'assurance vie qui, on le sait, est investie principalement en obligations publiques.
Donc il faut réorienter l'épargne finalement, il faut flécher l'épargne des Français qui est un véritable tas d'or d'ailleurs.
Alors il ne s'agit pas de la flécher parce que prendre des risques c'est pas donné à tout le monde, mais au moins qu'elle soit neutre.
Bah, on peut inciter les gens à prendre. Est-ce qu'en France on n'a pas un problème avec le risque
aujourd'hui? Si c'était neutre, si ce n'était pas plus lourd pour les investissements plus risqués, ce serait déjà pas mal.
L'idée d'orienter l'épargne des ménages vers les PME n'est pas une idée tout à fait nouvelle. Il y a eu une réforme de l'impôt sur la fortune en 2007, qui visait précisément à diminuer l'impôt sur la fortune de ceux qui le payent dès lors qu'ils investissaient dans les PME. La Cour des comptes a fait il y a peu un bilan de ce dispositif. Si j'essaye de le résumer, peut-être même de le caricaturer d'un mot, bénéfice pour ceux qui en bénéficient les PME limitées, bénéfice pour ceux qui payent l'ISF, important, c'est 620 millions d'euros. Donc, il faut quand même être prudent.
Ça sera le mot de la fin de ce débrief éco de ce dimanche. Merci à nos deux invités, Agnès Benassi-Carré, membre du Cercle des économistes, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, dont je rappelle la dernière publication qui date de février dernier, « Tirer le meilleur du marché unique européen ». Merci également à Gilles Finkelstein, directeur général du think tank Fondation Jean Jaurès. Et merci évidemment à Emmanuel Cuny. Le débrief éco, vous pourrez retrouver sur notre site internet.